Il est 6h30 en temps universel, 7h30 à Paris, vous êtes sur RFI. Également à Conakry, c'est le journal de Nicolas Sûr. Bonjour.
Bonjour. Après l'ONU, l'Union africaine dépêche un envoyé spécial à Madagascar, l'Ivoirien Amara Essi, qui avait déjà joué les médiateurs lors de la crise de 2001, devrait arriver aujourd'hui sur la Grande Île. La levée de l'interdiction des activités politiques et syndicales en Guinée, ce n'est pas pour tout de suite. Mise au point hier du chef de la junte militaire, le capitaine Moussa Dadis Camara recevait les représentants des forces vives de la nation pour la première fois depuis le coup d'État. Décidément, l'intérêt de Pékin pour l'Afrique ne se dément pas. Le président chinois Hu Jintao entame une nouvelle tournée sur le continent. Après une étape en Arabie Saoudite, il est attendu au Mali, au Sénégal, en Tanzanie et à l'île Maurice. Les sports enfin, avec l'ouverture de la 31e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. Temps fort dès ce soir, l'élection du meilleur footballeur de l'année. L'Égyptien Mohamed Aboutreika fait figure de favori.
Le journal des sports, ce sera sur RFI dans 20 minutes avec Frédéric Sutour.
Alors que le maire déchu d'Antananarive, fer de lance de la contestation contre le président Ravalomanana, appelle à de nouveaux rassemblements aujourd'hui dans la capitale malgache, l'Union africaine a décidé à son tour d'envoyer un émissaire sur la Grande Île. L'ancien ministre des Affaires étrangères ivoirien, Amara Issi, doit arriver aujourd'hui, 3 jours après la répression brutale d'une manifestation de sympathisants d'Andje Radzoel. Amara Issi connaît bien Madagascar. Il avait été l'un des médiateurs lors de la crise de 2001 entre Marc Ravalomanana et le président de l'époque, Didier Ratsirak. Aujourd'hui, Amara Issi en a conscience, sa mission sera difficile.
Le président de la commission a voulu que j'aille faire une évaluation de la situation, écouter toutes les parties pour avoir une idée précise de la situation et voir qu'est-ce que l'Union africaine peut faire concrètement pour aider Madagascar.
Est-ce que vous venez aussi avec un message d'apaisement?
Oui, parce qu'en définitive, les esprits doivent être réchauffés après tout ce qui s'est passé. Mais on se rend compte que, bon, quels que soient les cas de figure, il n'y aura pas de vainqueur tant que le pays ne sera pas en paix.
Pourquoi attendre ce week-end meurtrier pour une mission d'évaluation? Pourquoi ne pas l'avoir lancé plus tôt?
Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois qu'il y avait des contacts qui avaient été initiés. Il faut que les acteurs dépassent les questions des personnes et que chacun ne voit que Madagascar en tant que tel.
Ce n'est pas une mission facile.
C'est pas facile, non, c'est pas facile. Je me rends compte, mais de toute façon, on ne peut pas décider à la place des Malgaches et j'espère qu'on va trouver une solution. Surtout éviter les massacres. Bon, il faut toujours tenter quelque chose et c'est le rôle de l'Union africaine, quelles que soient les difficultés, de s'y impliquer, de faire en sorte qu'on puisse trouver une solution de paix.
Amara Issi, interrogé par Karine Franck. Amara Issi qui va retrouver à Antananarive l'envoyé spécial des Nations Unies, Haile Menkerios. Hier, ce dernier a appelé une solution pacifique et démocratique à la crise lors d'entretiens avec Marc Ravalomanana et Andje Radzoel. Enfin, le secrétaire d'État français à la coopération arrivera demain sur la Grande Île. Alain Joyandé fait le voyage avec une délégation de la Commission de l'Océan Indien, la COI, qui regroupe les Comores, la France, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Le message sera le même, condamnation de la violence et appel au dialogue.
Le rendez-vous était attendu avec impatience en Guinée-Conakry.
Pour la première fois depuis le coup d'État du 23 décembre, le chef de la junte militaire recevait hier les représentants des partis politiques, des syndicats et de la société civile au siège de l'Assemblée nationale. Le capitaine Moussa Dadis Camara a pu écouter leurs doléances, mais il n'a pas répondu à toutes les inquiétudes. Pas question notamment de lever l'interdiction des activités politiques et syndicales. Reportage Mokhtarba.
Dans une salle de congrès du Palais du Peuple où les applaudisseurs étaient plus nombreux que les invités officiels, les forces vives de la nation ont directement exprimé à la junte leurs soucis. Par la voix de leur porte-parole et en quelques mots, Adiara Biatou Diallo a demandé
la levée officielle de la suspension des activités des partis politiques et des syndicats. Un engagement formel et sans ambiguïté du CNDD pour que la période de transition n'excède pas 12 mois et l'ouverture immédiate de négociations avec toutes les parties signataires autour d'un chronogramme concret de la transition. La constitution d'un organe de transition regroupant des représentants de toutes les forces vives de la nation. La relance de la commission d'enquête indépendante sur les massacres survenus lors des événements de 2006 et 2007.
À la demande du président de la junte d'accélérer le processus pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, l'opposant Sidya Touré pense que la carte décembre 2009 est jouable.
Honnêtement, si nous travaillons avec la commission électorale nationale indépendante qui a déjà travaillé sur un chronogramme, que nous nous assurons que le recensement va se faire dans de meilleures conditions avec un financement à la clé, que la distribution des cartes d'électeurs pourrait se faire pendant le même temps. Je pense que si on s'en tient à cela, rien n'empêche la Guinée d'arriver à des élections en décembre 2009.
Mokhtarba Konakri, RFI.
Même cause, mêmes effets. Après le coup d'état du mois d'août, la Mauritanie va voter, elle aussi. La présidentielle, c'est dans 4 mois, le 6 juin prochain. Le Parlement mauritanien a été convoqué hier en session extraordinaire pour passer en revue les projets de loi qui n'ont pas pu être examinés en session ordinaire. Et les textes les plus importants concernent justement l'organisation de la présidentielle. Il s'agit notamment de mettre en place pour la première fois le vote des Mauritaniens de l'étranger et de mettre sur pied une commission électorale nationale indépendante. À Nouakchott, Manon Rivière.
Député de la majorité, Mustapha Ould Abedr Rahman revient sur la nécessité d'instituer une commission électorale indépendante qui soit à la fois crédible et efficace.
Il faut que les pouvoirs de la CENI soient étendus, il faut que ses membres soient honnêtes, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient des personnalités reconnues. C'est ça les conditions de transparence. Et nous souhaitons qu'il y ait le maximum de surveillance de ces élections pour qu'elles soient honnêtes. Parce que si elles ne sont pas honnêtes, on tourne en rond.
Vice-président du RFD, le principal parti d'opposition avant le coup d'État, Kanamidou Baba est conscient de la responsabilité qui pèse sur les épaules des parlementaires. Mais il souhaiterait que le débat sur le processus électoral soit également posé en dehors de l'Assemblée.
Ce qu'il faut, à notre sens, aujourd'hui, c'est d'engager un dialogue sur des sujets plus larges, à savoir également les candidatures des militaires, si tant est qu'elles doivent avoir lieu, à savoir le statut du HCE, comment revenir à l'ordre constitutionnel. C'est un tout. Donc il faudrait que les acteurs, sans préjugés, qui se mettent à table et qui discutent de tout et trouver un consensus. Et c'est cela l'idéal.
Les députés anti-putsch étaient absents de l'hémicycle hier. Depuis la prise du pouvoir par les militaires, ils refusent toujours de cautionner le fonctionnement du Parlement. Manon Rivière, Nouakchott, RFI.
Au Cameroun, l'Union européenne réagit à la nomination des membres d'ELECAM, l'organisme chargé de superviser les futures élections. Dans un communiqué, elle dit déplorer que la plupart de ses membres appartiennent à un seul et même parti politique, en l'occurrence celui du président Paul Biya. L'UE, toutefois, dit qu'elle prend acte de ces nominations et appelle ELECAM à s'acquitter de son rôle avec indépendance, impartialité et crédibilité.
Il est 6h38 en temps universel sur RFI. Le président chinois Hu Jintao a quitté Pékin ce matin pour une tournée en Arabie Saoudite et en Afrique, Nicolas.
Dans 4 pays africains précisément, le Mali, le Sénégal, la Tanzanie et l'île Maurice. C'est son 4e voyage sur le continent depuis son accession à la tête de l'État chinois en 2003. Décidément, l'intérêt de Pékin pour l'Afrique ne se dément pas. En témoigne également ce projet de pont à Niamey, un second pont sur le fleuve Niger dont la réalisation est confiée à une entreprise chinoise. Le chantier est déjà bien avancé. Sur place à Niamey, Alpha Barry.
Un deuxième pont pour enjamber le fleuve Niger qui traverse Niamey, c'était un vieux rêve. Un rêve qui commence à prendre forme depuis le lancement des travaux il y a 5 mois. Lamido Moumouni Haruna, ministre de l'équipement.
Cet ouvrage permettra de désengorger le premier pont et de faciliter le trafic poids lourd, surtout qui nous vient du Togo, du Burkina Faso et du Ghana principalement. Avec les exploitations minières, il se trouve qu'il y a un trafic assez dense. Aujourd'hui, c'est des tonnages importants que nous sommes actuellement en train d'avoir et que nous aurons dans les 3 années à venir.
Sur le terrain, l'entreprise chinoise a déjà réalisé 35% des travaux, selon l'ingénieur nigérien chargé de suivre le chantier, Ali Yero Amadou.
Vous le voyez, c'est un pont quand même d'un grand standing. C'est un pont d'une longueur de 600 mètres avec donc un tablier de 23 mètres. Le tablier est en 2x2 voies avec un terre-plein central. Ça fait à peu près le double. Du premier pont, parce qu'on aura une voie aller, une voie retour. Vous voyez que pratiquement à la rive droite, on a fini un peu l'essentiel.
La fin des travaux est prévue pour janvier 2011. Alpha Barry, Niamey RFI.
Nouvel enlèvement d'un expatrié au Nigeria. Un ingénieur portugais a été kidnappé par des inconnus armés. Cela s'est passé dans l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du pays.
Une affaire qui fait grand bruit en Sierra Leone.
Quatre femmes ont été soumises samedi à une véritable séance d'humiliation publique. Elles ont été déshabillées par la force et contraintes de marcher nues dans les rues de la ville de Kenema. Leur tort, avoir couvert vendredi les manifestations de la Journée mondiale contre les mutilations génitales. Leurs agresseurs sont des femmes, elles aussi, des membres de la société Bondo, une société secrète qui pratique l'excision comme rite d'initiation. Les quatre journalistes ont été secourus par la police et par des militants d'organisations de défense des droits de l'homme. Elles sont très choquées. Le porte-parole du gouvernement Sierra Leone, Ibrahim Ben Kargbo, se dit lui aussi très indigné.
Je dois dire tout d'abord qu'aucun citoyen n'a le droit de rendre la justice par lui-même. Concernant les journalistes qui ont été agressés à Kenema, cette affaire ne plaît pas du tout au gouvernement, car ce gouvernement croit à la liberté d'association et à la liberté de la presse. Quoi que pensent les membres de la société Bondo à Kenema, nous voulons dire que ce qu'elles ont fait est à l'opposé d'un mode de vie et d'une éthique civilisée. Nous croyons également que dans une démocratie, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Ceux qui pensent comme la société Bondo et sont favorables à l'excision ont le droit d'exprimer leur vue. Nous n'avons rien contre cela. En revanche, ils doivent laisser s'exprimer ceux qui ont des vues contraires. Pour l'instant, la police de Kenema est en train d'enquêter et nous pensons que nous aurons un rapport détaillé sur cette affaire très rapidement.
Le porte-parole du gouvernement Sierra Leone, joint par Cyril Ben Simon, l'an dernier, le gouvernement de Freetown avait promis de voter une loi pour interdire l'excision. Cela n'a pas encore été fait et cette pratique reste extrêmement répandue dans le pays. Selon les chiffres de l'ONU, 94% des Sierra Leonaises entre 15 et 49 ans seraient excisées. Une nouvelle un peu plus encourageante, en Algérie, les femmes sont désormais autorisées à transmettre leur nationalité à leurs enfants. Les autorités ont levé la réserve qu'elles avaient émise en ratifiant la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. En plus bref, pour finir, 10 jours après la catastrophe, 78 des victimes de l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du Kenya ont été enterrées hier dans une fosse commune. Leur corps n'était pas identifiable. En tout, 122 personnes avaient été tuées dans l'explosion. La foule, on s'en souvient, s'était amassée autour de ce camion accidenté pour récupérer de l'essence qui s'écoulait de la citerne. Le carburant s'est enflammé apparemment parce que quelqu'un avait allumé une cigarette à proximité. Et puis, sachez que Cesaria Evora a été faite hier chevalier de la Légion d'honneur, la plus prestigieuse des décorations françaises. C'est Christine Albanel, la ministre de la Culture, qui a remis cette décoration à la chanteuse capverdienne.
Et malheureusement, vous n'aurez pas le temps de nous en chanter quelques notes. C'était le journal de Nicolas Sûr sur RFI.